BFM, il est minuit. Beurre FM, la rediff.
Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Et alors que beaucoup de départements étaient encore en alerte rouge concernant les allergies au pollen, nous allons parler d'allergies ce matin avec mon invité, le docteur Catherine Kéké. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Voilà, vous êtes médecin allergologue, c'est la spécialité qui, écrivez-vous, vous convient le mieux. Et ce qui vous plaît vraiment le plus dans votre métier, ce sont les enquêtes allergologues.
Absolument.
Voilà, vous êtes...
L'allergologue est un véritable détective.
Oui, et on voit dans votre livre, il faut vraiment parfois avoir un esprit d'anticipation quand même, hein, pour pouvoir résoudre certaines allergies.
Oui, oui, en effet. Le diagnostic allergologique passe par plusieurs étapes et initialement, il y a l'enquête allergologique avec l'interrogatoire qui est très important.
Alors, vous publiez les nouvelles allergies aux éditions du Rocher, comment les reconnaître, comment les combattre. Et dans ce livre, vous vous intéressez aux allergies contemporaines et vous avez participé récemment à un livre de cuisine qui s'appelle Cuisine sans allergènes de Marie Lossy chez Hugo Life. Elle est mère de 3 enfants dont 2 sont allergiques et elle a dû réorganiser la façon dont elle cuisinait. Depuis 20 ans, elle invente des recettes sans allergènes. Et vous donnez les conseils médicaux.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait des encadrés médicaux dans ce livre en donnant quelques conseils pour éclairer les personnes qui sont allergiques sur certains éléments, comme par exemple l'importance de l'influence de la cuisson sur certains allergènes.
Alors, il faut expliquer ça, parce qu'un aliment cuit à plus ou moins une certaine température n'a pas les mêmes effets allergiques que l'autre, c'est ça ?
Alors en effet, c'est-à-dire que par exemple si on prend une pomme, il y a plusieurs allergènes dans la pomme et il y a des allergènes qui sont détruits par la cuisson et d'autres qui ne le sont pas. Ce qui fait que la personne qui est allergique alors à ce qu'on appelle la famille des PR10, qui se trouve plutôt dans la pulpe du fruit, vont pouvoir manger les fruits cuits, puisque l'allergène est détruit par la cuisson.
Par la cuisson, ouais.
Mais ne pourront plus les manger crus. Quand ils vont les manger crus, ils vont avoir une sensation de démangeaison dans la bouche, de gonflement au niveau des lèvres, etc. Et c'est souvent lié à une allergie au pollen de bouleau.
Parce que c'est ce qu'on appelle les allergies croisées. Et ça, on va beaucoup en parler ce matin, parce que c'est très important de comprendre que finalement, les allergies se croisent. Sauf que sa fille, elle, c'était la poire. Alors, est-ce que ce que vous avez dit pour la pomme, ça marche pour la poire ?
Voilà, la poire, la pomme, les fruits à noyaux, tout ça, ça croise avec le pollen de bouleau, en effet.
La pêche, ça marche aussi.
La pêche, exactement.
Bien.
Alors, que la pêche peut aussi croiser d'une façon différente avec le pollen de cyprès. Et dans ces cas-là, on a des réactions plutôt dans le sud de la France avec des réactions plus sévères, de type anaphylactique.
C'est quoi une réaction anaphylactique ?
Alors, une réaction anaphylactique, c'est une réaction extrêmement sévère au niveau de l'allergie alimentaire avec des troubles digestifs, respiratoires, etc., qui nécessitent l'injection d'adrénaline.
Et l'adrénaline, c'est quoi ?
L'adrénaline, c'est le traitement d'urgence qui va permettre de traiter justement cette réaction anaphylactique. Ça se fait en injection, en fait, avec un stylo auto-injecteur.
Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une réaction ou une hormone sécrétée en cas de forte excitation.
Alors, oui. Aussi, en cas de réaction forte allergique, dépendant de ce qu'on appelle les anticorps IgE.
Voilà. Et on va reparler des IgE, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous êtes en guerre contre les chaînes de télévision qui font des reportages sur les allergies au pollen et qui n'invitent pas d'allergologues. Pourquoi ?
Mais alors, heureusement,
c'est tellement vrai en plus.
Certaines émissions, il faut quand même le dire, invitent de plus en plus des allergologues, ce qui est quand même une bonne chose. Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve dans des émissions télévisées où en fait... Il n'y a pas d'allergologue et c'est un petit peu dommage parce que l'allergologie, c'est une spécialité à part entière et c'est bien d'inviter un spécialiste allergologue.
Alors c'est un marronnier, hein, les allergies, ça revient tous les ans, donc de toute façon on en parle très souvent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de papiers, dans les journaux, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens concernés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle souvent.
Oui. Ce dont on parle le plus, c'est l'allergie au pollen. Puisque en fait c'est vraiment ça le marronnier, les gens qui éternuent, etc. à une saison, mais il y a aussi d'autres allergies comme les allergies alimentaires.
Et paradoxalement, dans l'augmentation des allergies, les allergies alimentaires, elles augmentent plus que les allergies au pollen.
Alors quelquefois c'est un peu lié justement en raison des allergies croisées.
Même finalement, si le nombre d'allergies au pollen est en constante augmentation, hein, vous dites qu'elles ont changé de nature d'une certaine façon, ces allergies au pollen.
Alors, disons que les saisons sont beaucoup plus longues, que le réchauffement climatique, la pollution de l'air explique énormément de phénomènes de modification en fait de la durée et de l'accroissement des symptômes.
Mais est-ce que ça a modifié la composition du pollen, par exemple ? Là, vous parliez de pollution urbaine.
La pollution, oui. Ouais. Ça modifie le pollen, oui.
Mais ça veut dire qu'il est plus agressif aujourd'hui ?
Oui, tout à fait.
Et effectivement, les saisons sont plus longues parce que les hivers sont plus doux.
Voilà, c'est ça.
Alors, l'OMS dit que c'est très important finalement, puisque l'allergie est classée 4e maladie chronique mondiale, selon l'OMS.
Oui.
Et qu'on estime qu'à l'horizon 2050, eh bien, la moitié de la population mondiale sera allergique.
Oui. Il faut savoir que dans les années 80, le pourcentage était nettement inférieur et qu'au fur et à mesure, en fait, le pourcentage augmente. Oui.
Alors.
Du fait de notre mode de vie, de l'industrialisation, de l'alimentation transformée, etc., qui favorise les allergies.
Alors on verra pourquoi ça change finalement, quel impact ça a sur la façon dont on est allergique. Parce que c'est un lien avec les pollens. Par exemple, si on mange McDo, est-ce que c'est un lien avec les allergies au pollen ?
Non, pas par rapport au pollen, mais par rapport au microbiote intestinal en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que si on mange hyper transformé, le microbiote intestinal est moins diversifié et cela favorise les allergies alimentaires, tout du moins chez les enfants.
Alors, on met l'allergie au singulier, mais l'allergie, ça devrait être au pluriel, hein. Il y a plusieurs types d'allergies.
Oui, tout à fait.
Quels sont les différents types d'allergies
Les plus fréquentes, ce sont ce qu'on appelle les allergies immédiates, c'est-à-dire les allergies IgE médiées comme les allergies au pollen, aux aliments, aux hyménoptères.
Alors vous connaissez ça par cœur, mais IgE médiée.
Oui, alors pardon.
Mais parce que imaginez que nous, on ne sait pas ce que c'est que des allergies IgE médiées.
Alors, il y a ce qu'on appelle le terrain atopique, c'est-à-dire le terrain génétiquement prédisposé à faire des allergies, et les personnes fabriquent des anticorps IgE qui vont réagir avec des allergènes de l'environnement. Donc ça, il faut qu'il y ait des antécédents allergiques dans la famille.
C'est-à-dire parents, grands-parents ?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les allergies retardées, les eczémas de contact, par exemple, avec les bijoux fantaisie, etc. Et puis, vous avez maintenant des nouvelles allergies alimentaires qui sont ce qu'on appelle les non-IgE-médiées, qui s'appellent le SEIPA et les œsophagites et éosinophiles, mais qui ont plus un rapport avec des troubles digestifs. Et dans ces cas-là, il y a un...
C'est pour les gastros, ça. C'est pour les gastro-entérologues.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Mais elles ne sont pas IgE médiées parce qu'en fait, c'est des substances que peut-être nos parents ou nos grands-parents ne mangeaient pas.
Non, le mécanisme est totalement différent. Il n'est pas encore complètement compris pour ce qu'on appelle le SEIPA. Pour l'œsophagite et l'éosinophile, il y a des cellules éosinophiles qui se retrouvent dans l'œsophage et qui vont bloquer les aliments puisqu'il y a une inflammation au niveau de l'œsophage.
Alors, il y a une idée que vous battez en brèche. C'est une idée que l'allergie... apparaît comme ça du jour au lendemain?
En fait, il y a toujours une période de sensibilisation pendant laquelle on fabrique des anticorps, par exemple des IgE, mais on n'est pas allergique. On n'a pas de symptômes. Et après, au fur et à mesure du contact, on devient allergique, en fait.
Ça peut prendre combien d'années ?
Oh là, ça peut prendre le temps que ça prend, je veux dire, quelques mois ou quelques années. Ça dépend.
Donc, on ne devient pas allergique du jour au lendemain. Donc, il y a toujours cette phase...
Ouais. On a l'impression qu'on le devient du jour au lendemain. Mais il y a toujours une période préalable pendant laquelle on fabrique... on se sensibilise, en fait.
Mais à l'inverse... Est-ce qu'une allergie peut disparaître du jour au lendemain? Il y a des gens qui étaient asthmatiques à un moment de leur vie, qui ne le sont plus 15 ou 20 ans plus tard, par exemple. Vrai ou pas vrai?
Ça disparaît quand il n'y a plus de contact avec l'allergène. Et l'asthme est un petit peu différent, parce que l'asthme, il n'est pas forcément d'origine allergique.
Mais sur les allergies, vous connaissez des allergies qui disparaissent du jour au lendemain?
Alors, du jour au lendemain, non. Après, vous avez chez les enfants, par exemple, l'allergie à l'œuf ou l'allergie au lait qui peut disparaître avec l'âge.
Et ça
n'est pas systématique.
Et qu'est-ce qui peut expliquer que ça disparaisse avec l'âge, alors?
Alors là, je n'ai pas d'explication à vous donner. Je pense que, pour l'instant, c'est encore un mystère.
Il y a encore beaucoup de mystères sur les allergies.
Mais... L'allergologie, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a beaucoup de mystères à régler.
Alors, dans un instant, nous allons parler des allergies alimentaires. Et là, vous avez mené l'enquête, vous êtes allé fouiller un petit peu partout dans le monde entier pour voir quelles étaient les allergies alimentaires les plus incroyables. Vous restez avec nous et on parle d'allergies jusqu'à 13h dans AVS.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec notre invitée aujourd'hui, alors elle n'est pas sur le plateau, elle est au téléphone, c'est le docteur Catherine Quéquette qui est médecin allergologue. Et vous publiez alors notamment deux livres. Vous publiez donc, vous avez participé au livre qui s'appelle Cuisine sans allergène de Marie Lossy chez Hugo Life. Et puis vous publiez les nouvelles allergies, aux éditions du Rocher. Comment les reconnaître, comment les combattre? Alors, on parlait de l'absence des allergologues sur les plateaux de télévision, mais vous dites que parfois aussi, ce qu'il faudrait, c'est de parler de ce fameux bilan allergologue. En quoi ça consiste?
Alors, le bilan allergologique, il est fait par l'allergologue. Alors, c'est vrai que malheureusement, en France, il y a trop peu d'allergologues par rapport au nombre d'allergiques, et qu'il faut d'abord passer par soit le pédiatre chez l'enfant ou le médecin généraliste pour déjà débrouiller un peu le travail. Et ensuite, dans un deuxième temps, aller voir l'allergologue pour faire ce qu'on appelle des prick tests, des tests sur la peau, pour identifier l'allergène. Et ensuite, on peut faire aussi un dosage sanguin des IgE spécifiques qui sont dirigés contre les allergènes. Et dans ces cas-là, on identifie encore mieux l'allergène.
Est-ce que ces bilans sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie?
Oui.
Oui?
Oui, oui.
Et alors, après, une fois que vous avez le résultat de ces tests, il peut y avoir une période de désensibilisation. Donc là, est-ce que ces traitements sont pris en charge par l'assurance maladie?
La désensibilisation est un traitement qui est pris en charge pas suffisamment, je dirais. Maintenant, on appelle ça l'immunothérapie allergénique. Oui. Et ça se fait maintenant tout du moins pour ce qu'on appelle les pneumoallergènes, c'est-à-dire les allergènes aériens, les pollens, les acariens, etc. Ça se fait par voie sublinguale, avec sous forme de gouttes ou sous forme de comprimés, avec un remboursement très modeste, trop modeste pour la forme comprimée. Et dans ces cas-là, il faut se rapprocher de sa mutuelle pour connaître les conditions de remboursement.
Oui. Alors, je vous pose la question parce qu'il peut y avoir, notamment chez les ados, beaucoup d'arrêts dans les périodes de désensibilisation.
Oui.
Donc c'est si vous allez si vous allez pas jusqu'au bout, si vous allez pas jusqu'au bout, bah ça fonctionne pas quoi.
La désensibilisation, c'est 3 à 5 ans. On admet que après 4 ans de traitement, on peut arrêter.
D'accord. Bien. Le bilan allergologique, il se fait en une fois, en plusieurs fois?
Ça dépend en fait des symptômes, ça dépend de si la personne, en général, les allergiques peuvent avoir une allergie respiratoire, une allergie alimentaire, et dans ces cas-là, bah, le bilan s'allonge au fur et à mesure du nombre de symptômes et d'allergènes responsables.
Quels sont les motifs de consultation les plus fréquents chez vous aujourd'hui?
Les premiers motifs, c'est essentiellement les motifs respiratoires avec les acariens, avec les animaux, avec les pollens. Alors après, en fonction des saisons, il va y avoir les motifs qui vont se modifier et puis il y a les allergies alimentaires. Les allergies médicamenteuses sont plus traitées en milieu hospitalier, en fait.
D'accord. Mais en gros, vous voyez arriver de plus en plus de parents ou de gens qui souffrent d'allergies alimentaires ou pas?
Oui, et puis il y a des personnes de plus de 60 ans aussi qui avant, on disait que l'allergie, c'était pour les personnes jeunes, mais les seniors, maintenant, sont aussi concernés.
Et alors, quel type d'allergie, au final, les amène à vous consulter?
Pour les enfants, c'est plutôt les allergies alimentaires. Après, il y a pour les adultes, les allergies respiratoires. Et il y a des allergies médicamenteuses, mais c'est beaucoup moins fréquent.
Mais pour les seniors, qu'est-ce qui amène les seniors à consulter, finalement, alors qu'ils ne l'avaient pas fait avant?
Les allergies respiratoires, en fait. Les pollens, par exemple.
Mais pourquoi? Parce qu'ils ont changé de région?
Alors oui, on peut avoir ce motif-là. Après, il y a un allongement de l'âge. Il y a plein de phénomènes qui rentrent en ligne de compte, en fait.
Quelle différence faites-vous entre une allergie alimentaire et une intolérance alimentaire?
Alors l'intolérance, on va dire que... Alors il y a plusieurs types d'intolérance, hein, mais l'intolérance ne met pas en jeu le pronostic vital. Alors qu'une allergie peut entraîner un pronostic vital, déjà. Après, les mécanismes sont différents en fonction des intolérances, en fait. Alors, si vous voulez que je les énumère... Il y a l'intolérance au gluten, qui est la maladie cœliaque, qui est une pathologie auto-immune. Après, vous avez l'intolérance à l'histamine, qui est un déficit enzymatique. L'intolérance au lactose, qui est un déficit enzymatique en lactase, qui fait que le lactose, le sucre du lait, va être moins bien digéré. Voilà, ce sont les principaux. Et puis dans ces cas-là, les tests allergologiques sont bien sûr négatifs.
Mais là, on parle d'intolérance. Alors, c'est vrai que le gluten, c'est une intolérance dont on parle beaucoup, mais finalement, peu de gens sont intolérants au gluten.
Alors, l'intolérance au gluten, c'est vraiment le gastro-entérologue qui s'en occupe, en fait.
D'accord. Donc ça, c'est pas les allergologues. D'accord. S'il était allergique, il viendrait vous voir. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ou pas.
On peut avoir des personnes qui viennent nous consulter et qu'on réoriente après parce que le diagnostic n'est pas le bon, en fait. Enfin, elle n'est pas allergologique. Donc, on va réorienter vers le spécialiste gastro-entérologue, par exemple.
Alors, il y a une allergie que les parents connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'APLV, l'allergie aux protéines du lait de vache. Donc c'est connu depuis longtemps, mais finalement c'est pas toujours bien diagnostiqué. Pourquoi?
C'est pas encore trop connu, malheureusement. Et puis il y a plusieurs formes d'APLV. C'est encore sous-estimé, malheureusement. On a beau essayer de faire passer des messages, il y a toujours des cas qui passent un peu à l'as, je dirais, et les parents ont du mal, en effet, à... Il y a quelquefois une errance, une errance diagnostique qui fait qu'on se retrouve avec des parents un peu désorientés. Et c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre entier dans mon livre.
Mmh. Donc finalement, quel est l'allergène de cet APLV ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a la bêta-lactoglobuline, la caséine, l'alpha-lactalbumine. Mmh. Ce sont les principales, en fait.
Mmh. Et quels sont les symptômes chez l'enfant ?
Alors, chez l'enfant, ça peut prendre plusieurs formes, comme des troubles digestifs, ou bien de l'urticaire, une anaphylaxie, un angioédème. Il y a plusieurs types. Ça peut être une crise d'asthme aussi, qui peut être due à par la PLV, quoi.
Hmm. Et qu'est-ce qui peut amener le professionnel de santé à suspecter une APLV ?
C'est la première allergie alimentaire chez le nourrisson, de toute façon.
D'accord. Donc ça démarre très tôt, c'est ça ?
Oui, oui. Ça peut démarrer dès l'allaitement maternisé, ou bien l'allaitement maternel, si par exemple la maman mange du fromage ou du lait, l'allergène passe dans le lait maternel, en fait.
Hmm. Comment est-ce qu'on peut, pour les parents qui nous écoutent, prévenir une APLV ?
Comment la prévenir ?
Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait ne pas faire, ou à la maternité, par exemple ?
Alors, il y a des recommandations qui sont... c'est-à-dire que soit on... déjà, il faut voir le terrain. Si le terrain familial... prédispose ou pas. Après, il y a des recommandations qui peuvent être données pour introduire le lait. C'est-à-dire que quand on commence l'allaitement maternisé, il faut continuer avec le lait maternisé, sauf bien sûr s'il y a des symptômes qui apparaissent.
Mmh.
Si on fait l'allaitement, il faut pas faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut pas faire une alternance des deux. C'est on choisit l'un ou on choisit l'autre.
D'accord, oui, il faut choisir son camp, on n'alterne pas.
Voilà, il faut surtout pas alterner au début, en fait.
Mmh. Qu'est-ce que vous appelez, vous, la dangerous bottle?
Et justement, c'est cette introduction un peu anarchique, on va dire, au début, où on va donner l'un et l'autre.
Hmm.
Parce qu'on va risquer de sensibiliser l'enfant.
Mais la solution, c'est pas de remplacer, par exemple, les préparations maternisées par des boissons végétales ?
Alors non, pas de boissons végétales chez les nourrissons, parce que au niveau nutritionnel, c'est insuffisant, en fait. Il ne faut surtout pas faire ça. Sauf des préparations infantiles à base de riz qui sont conseillées par les médecins.
D'accord. Mais le lait végétal, de toute façon, ça ne devrait pas s'appeler lait végétal, parce que c'est du jus.
De 3 ans.
D'accord.
Il faut vraiment, pour introduire un produit végétal, enfin une boisson végétale chez l'enfant, il faut aussi que la diversification soit bien commencée, quoi.
Il y a aussi des préparations hypoallergéniques, hein, les laits HA.
Alors non, les laits HA ne sont pas indiqués, en fait. Et au contraire, les laits HA ont été étiquetés à risque pour entraîner ensuite des problèmes d'allergie.
D'accord. Il y a aussi d'autres options. Alors, je ne sais pas si vous les recommandez, hein, lait de chèvre, lait de brebis, d'ânesse ou de jument.
Alors, tous les laits de mammifères, quand il y a une allergie aux protéines du lait de vache, sont contre-indiqués.
D'accord. On ne peut pas remplacer par un autre.
On peut avoir des allergies croisées, en fait.
D'accord. Donc, ce n'est pas une bonne idée non plus.
Non, c'est pas une bonne idée non plus. Les seules préparations infantiles autorisées sont les préparations infantiles à base d'acide aminé ou d'hydrolysate casine, en fait, prescrit par le médecin, soit le médecin traitant ou l'allergologue, en fait.
Vous restez avec nous, le docteur Catherine Quéquette, qui est médecin allergologue, est avec nous jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, la redille. La redille, la redille, la redille. Beurre FM, la redille. La redille, la redille, la redille.
10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme tous les jours, nous sommes ensemble, ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Jusqu'à 11h, nous sommes ensemble, y compris vous, au 0153 48 3000. Chers amis auditeurs, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux et je suis évidemment satisfait puisque vous intervenez, vous commentez l'actualité à votre façon, à votre manière et en toute liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, évidemment, dans une station où vous commentez l'actualité de façon libre? C'est ici que ça se passe. Alors continuez nous appeler. On va parler, vous savez, au sommaire de cette émission, eh bien, de plusieurs sujets. D'abord, direction le Sénégal. Le Sénégal qui vient de sortir à peine d'une crise politique majeure. Hein. Le pays a connu une petite secousse, évidemment. D'un côté la population et de l'autre évidemment les institutions et les pouvoirs publics. Macky Sall a dû-t-il céder? Eh bien la question qu'on se pose, mais surtout le jeune président à peine élu, eh bien il a fait déjà des déclarations, il a 44 ans à peine et on reviendra sur ce sujet qui nous concerne évidemment puisqu'il a lancé un message en France, y compris la manière dont il voit le partenariat d'égal à égal et non plus cette vision qu'on a de l'Europe vis-à-vis du Sud, c'est-à-dire du continent africain. Ensuite nous parlerons avec nos débattants influenceurs. Ici même, on reviendra sur justement le Sénégal. On parlera sur cette guerre en Israël et le Hamas qui continue avec ce cessez-le-feu. Pourquoi il a du mal? Pourquoi la résolution a du mal à prendre forme et pourquoi le cessez-le-feu fait polémique? On en parlera ici même. Nous reviendrons sur ce déficit. Vous savez, le déficit qui est à 5-5. Alors, beaucoup de personnalités politiques chez les Républicains réclament la démission de Bruno Le Maire. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi on réclame sa démission? Il y a une raison évidemment. Nous allons en parler ici. On viendra aussi, vous savez, sur cet événement. Ça s'est déroulé hier à Nice. Nice, tir à balles réelles, lynchage, coup de marteau. Et on parlera justement de ces jeunes confrontations avec... dans le quartier des Moulins à Nice, nous reviendrons avec cette confrontation jeune police. Ça tombe bien, nous avons un ancien membre du RAID donc, qui est avec nous. Et puis lui aussi, elle est très impliquée dans les quartiers populaires. On tentera de comprendre évidemment pour quelle raison c'est tout le temps en permanence sous tension. C'était la Courneuve il y a la semaine dernière, la Nice. Pourquoi cette tension permanente et récurrente? Le coin de neuf avec le docteur Majid Seoussine, c'est tout à l'heure, à 10h50 précisément. Il reviendra à lui avec son regard sur son billet d'humeur, vous le savez. Comme chaque mercredi, il parlera de déficit d'attentat de Moscou et de France Info. Bon, et ben, on comprendra évidemment son billet d'humeur tout à l'heure. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et oui, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Les informés, les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Ibouba, qui est journaliste. Bonjour Ibouba.
Bonjour Amin Farkan.
Merci d'être avec nous Ibouba. On va revenir avec vous, vous savez quoi, sur cette situation au Sénégal. Le Sénégal qui a élu donc Bassirou de Diomaye Faye, qui était un candidat souverainiste, hein, et qui est tout jeune, donc rappelons-le, il sort il y a à peine quelques jours de prison, puisqu'il est emprisonné. Racontez-nous un petit peu aujourd'hui le Sénégal, depuis que ce jeune président est élu. D'abord, comment ça s'est déroulé, effectivement? Est-ce que les Sénégalais voulaient ce changement?
Oui, absolument, Adil Farkan. Comme vous savez très bien, le Sénégal a un grand peuple, donc un peuple qui a toujours inscrit la démocratie dans ses livres d'or. Et comme vous savez très bien, depuis les années 1800 jusqu'à nos jours, donc le Sénégal a toujours prouvé que c'est un pays démocratique et un peuple résilient, donc une nation très forte. Et ce qui s'est passé, c'est l'ex-président de la République, il n'est pas encore ex, mais bientôt ex-président de la République, Macky Sall, donc en fin de son magistère, il y a eu quelques turbulences, où d'ailleurs, M. Diomaye Faye donc, a été sujet de cela, car il vient de la prison il y a à peu près quelques jours.
Oui, 10 jours à peine, effectivement.
Et vous pouvez constater que donc de la prison au palais présidentiel, comme l'a fait Nelson Mandela, et c'est notre Nelson Mandela donc du Sénégal.
C'est le nouveau Nelson Mandela du Sénégal. Vous pesez évidemment vos mots quand vous dites ça, c'est pas la même histoire, et pourtant vous parlez de la, vous faites la comparaison avec Nelson Mandela. Pourquoi?
C'est parce que la même chose, parce que c'est ce jeune homme de 44 ans donc, qui vient d'une couche sociale un peu modeste, donc de son village de Nagagnan, au fond donc des bassins du Sénégal, au milieu du Sénégal, je dirais bien, donc dans la petite côte, alors qui vient s'installer à Dakar et qui avait comme option justement de travailler dans des conditions qui n'étaient pas idoines pour pouvoir réussir. Mais aujourd'hui, qui a serré la ceinture et qui est devenu ce qu'il est devenu malgré donc, toutes ces turbulences. Il a toujours vécu ces turbulences, je voudrais le dire, en fait. Et avec le président Macky Sall, qui aujourd'hui donc, a laissé aussi faire entendre au peuple sénégalais qui était couronné effectivement de cette injustice, dont le peuple sénégalais en avait marre, cette absence donc de démocratie, cette absence de liberté d'expression, qui a valu tout cela donc à ces jeunes, Ousmane Sonko notamment, et Diomaye Faye, qui, je vous le disais tout de suite, venait de prison exactement pour les mêmes faits.
Il a rendu hommage d'ailleurs au président de son parti, hein, justement parce qu'il l'a remplacé à pied levé, il a été élu. Aujourd'hui, Ibouba, justement, on parle d'un partenariat, lui-même, le tout nouveau président, Diomaye Faye, pardon, il parle d'un partenariat correct qui doit être revisité. C'est quoi est-ce que je vous pose la question, est-ce que c'est un traitement d'égal à égal désormais que veut le tout nouveau président, à peine élu?
Oui, absolument. Vous savez, c'est cette nouvelle jeunesse hein, du continent africain. Bon, peut-être sûrement pas barricadé, mais qui voudrait quand même voir le changement un tout petit peu depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Nous savons très bien que, donc, surtout donc, ces populations qui étaient connues, qui étaient colonisées par les Français, ne vivaient pas exactement donc, cette envergure qu'ils devaient vivre depuis le temps jusqu'à nos jours. Et ce changement, il le faut. Puisque c'est traduit sur toutes les langues des jeunes africains de nos jours. Et ce changement, il le faut. Vous l'avez bien entendu. Donc lors de sa première déclaration, il a mis l'accent sur donc, les réformes des institutions.
Exact.
La lutte contre la corruption. Donc la lutte, l'allègement plutôt du coût de la vie. Et surtout aussi, donc, voir les contrats qui ont été signés en général donc avec les différents partenaires, puisque il faudrait que maintenant que le peuple puisse jouir donc de ces bienfaits qu'a donné le Dieu, le bon Dieu.
Les Sénégalais attendent beaucoup. Les Sénégalais attendent beaucoup de ce tout nouveau président Ibouba.
Absolument. Aujourd'hui donc les Sénégalais sont tous baignés dedans, comme vous le voyez. Donc voilà.
En même temps, ils sont venus de la France aussi.
Ils ont toujours été frappés par la mélancolie.
Combien de récits sont les Français?
En quelque sorte, une page de vie quasiment dénaturée. Donc à cette façon, il va falloir que Diomaye Faye puisse quand même sortir ses griffes et pouvoir régler, je ne dis pas darda, mais faire l'essentiel maintenant, puisque les Sénégalais ont faim. Et n'attendront pas pour longtemps.
Merci Ibouba. Donc on l'aura compris, le plus jeune président de l'histoire du pays, hein, c'est bien ça, hein, un anti-système.
44 ans.
C'est, 44 ans, un anti-système, c'est comme ça qu'il se qualifie effectivement. Et nous suivrons tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Ibouba, le journaliste, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Adil Farkan, merci à votre équipe.
Salut. Merci à vous, c'est parti tout de suite, le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec Bruno Pomard, ancien membre du RAID. Bonjour, aujourd'hui le président fondateur. Vous savez quoi, de la fondation RAID Aventure.
Tout à fait, il travaille sur le rapprochement jeune police depuis 34 ans.
Et puis il est sur tous les plateaux de télé, je vous ai vu partout là en ce moment.
Ouais, je suis une star.
Ouais. Ça va, on a deux stars alors.
Non, j'essaie de donner mon avis d'homme de terrain que je suis. Quoi. Je ne suis pas un politique, moi je suis juste un mec de terrain. Je suis maire d'un tout petit village dans le sud et policier de base.
Il doit prendre du pognon avec les ronds-points.
Et toujours très engagé pour la jeunesse des quartiers, parce que je trouve qu'il faut encore s'en occuper, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas caricaturer les quartiers qu'avec les trafics de drogue.
Il est beau, Bubinassia.
Mais il m'a suivi dans plein de trucs, je sais bien.
Bubinassia, justement, je sais
ce que j'allais dire.
Bubinassia, bonjour, acteur, scénariste, producteur. Comment ça va, Bubinassia?
Ça va très bien.
Moi, je suis content parce qu'il y a la Mentale 2. J'ai kiffé la Mentale 1. Et maintenant que j'ai. En plus, vous l'avez annoncé ici, dans ce micro.
C'est vrai.
Donc, on l'attend.
Non,
l'avant-première, attention.
Je voudrais juste dire à propos de Bruno Pommard, même si des fois on se frite parce qu'on pense pas pareil, mais on se connaît depuis au moins 30 ans tous les deux. Ouais, ouais. On a fait le tour de France déjà pour convaincre les gamins d'aller voter, pour le civisme, pour la police, pour les pompiers, pour les médecins dans les quartiers.
Et bon, on va en parler. Justement, ouais. Laissez-moi faire le tour de table parce que justement, il y a des tensions en ce moment. Paul-Antoine, analyste. Bonjour Paul-Antoine.
Bonjour.
Comment
moi,
ça va?
Bah, moi je suis entouré de stars, donc.
le petit homme que je suis est ravi. Je suis impressionné dans mes petites chaussures. Je ne vais rien dire de l'émission. Hein.
Exactement.
Vous menacé avant l'émission, ça a marché.
Moi je me suis pris, j'avais un flic à droite.
Un flic, un acteur et un influenceur.
Ah ouais,
qui est en vogue.
Mais c'est pour ça.
Qui monte en puissance.
Qui suis-je pour parler?
En plus, il est suivi par Débile et Cyril, alors je me dis.
Ouais, j'allais dire que je suis c'est comment on dit,
c'est poste.
Et à chaque fois, j'ai le kiff.
Il est bon.
Suivez-le, les amis, vous allez voir.
Il est juste.
C'est ça qui est important.
J'essaie d'être équilibré en tout cas.
C'est Amine, ça. Il est élu aussi par ailleurs. C'est élu de la Courneuve.
La
Courneuve,
d'accord.
Il faut faire venir. Pourquoi vous ne faites pas venir Bruno Pommard?
Quand il veut.
On en a fait déjà.
Mais on fait un truc vraiment.
Si tu veux,
en dehors des institutions. On fait un truc, on va dans le quartier.
Ah, mais complètement. C'est exactement ce qu'on fait, nous.
Ah oui, absolument.
Le rendez-vous est pris.
Vous avez vu?
Rendez-vous est pris.
Il n'a pas peur d'aller dans les quartiers.
Oui, puis moi, les quartiers, je mettrai.
Bien sûr, pas de soucis.
Allez, messieurs, c'est quoi? Tir à balle réelle, s'il vous plaît, dans le quartier de Nice, sous tension, qui a été le théâtre de nouveaux affrontements. Ça s'est passé donc lundi soir à mardi après-midi. Et ça me rappelle un peu ce qui s'est déroulé à la Courneuve. Maintenant, on parle de tir à balle réelle, lynchage, coup de marteau. Est-ce que les jeunes ont voulu se faire justement justice eux-mêmes, dans le quartier des Moulins de Nice? Qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, Bruno Pommard? Parce que il y a à peine une semaine, c'était la Courneuve, maintenant Nice. Les quartiers sont désormais sous tension, on peut le dire, oui, avec ce rapport police-jeune.
Pas nécessairement le rapport police-jeune, mais je pense que c'est surtout
avec
la lutte.
Le ministre de l'Intérieur, oui, justement, qui était là il y a quelques jours.
Oui, tout à fait, oui, j'ai vu que tu avais reçu. Oui. Je crois qu'on est dans la lutte de territoire pour les stupes. On sait que c'est un marché de plus de 3 milliards et demi maintenant, donc c'est inscrit même au PIB, donc c'est pour dire que quand même c'est quelque chose d'impressionnant. Et je crois que cette lutte est sans limite entre les gangs, entre les groupes qu'on rencontre dans nombreux quartiers. Et c'est pour ça que le travail qu'a voulu mettre en place Darmanin de Place Nette, c'est une bonne chose, mais ça ne va pas régler sur le fond la problématique. C'est ce que je dis et ce que je redis souvent sur les plateaux de télé. Moi qui suis engagé depuis 34 ans dans les quartiers, je le vois bien, je n'ai jamais habitué, je ne suis pas issu des quartiers du tout, mais j'ai vécu beaucoup et je continue à y aller beaucoup. Et je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de familles. J'étais il y a peu de temps au Flamand, à Marseille et aux Égalades également, pour discuter avec les familles. Ce qu'on a besoin dans ces quartiers, c'est évidemment de la police et de casser ces réseaux, des aides mafias comme le clan Yoda, là. Ils ont pris un sacré coup sur la tête et c'est très bien. Mais après, tout ça, il faut le stabiliser. C'est ça le plus dur pour les politiques et pour les élus. C'est de stabiliser ces quartiers. Ça veut dire quoi, stabiliser? C'est toujours qu'il y ait en permanence des gens sur le terrain pour pouvoir mailler et occuper le quartier. Parce que ce que je dis toujours, moi, la nature a horreur du vide. Donc si tu laisses la place, mais il y a les dealers, t'as les radicaux, les islamistes qui sont là présents. Hein. Attention, je fais bien la différence. Hein. Les islamistes, les gens qui font de la prédication et qui détournent nos jeunes. Et ces gens-là, ben, ils arrivent sur un terrain qui est conquis puisqu'il n'y a personne. Donc s'il y a des associations, s'il y a des acteurs engagés, si. Et on le voit.
Mais pourquoi il y a des tensions? Parce que là, on a l'impression que
c'est du business.
Oui, c'est du business, on l'aura compris.
Oui, mais oui, c'est ça. Et tu as ça dans, grosso modo, une soixantaine de QRR, comme dit, de quartiers de reconquête républicaine où malheureusement ces quartiers cumulent le plus de maux. C'est pour ça qu'on y est, nous, et qu'on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice social dans ces quartiers, c'est important. Mais encore une fois, il y a tellement de trafic de drogue, c'est exponentiel, on le sait, tout le monde le sait. Les policiers luttent comme ils peuvent avec l'OFAS, avec Tracfin, avec tout ce qu'on peut imaginer. On essaie de taper sur les flux financiers, etc. C'est une vraie problématique à régler, mais elle ne pourra que se régler ensemble. Parce que moi, je pense souvent à ces quartiers, aux gens qui vivent dans ces quartiers. Parce que on a tendance, et on le voit dans les médias, sans arrêt de dire, les quartiers sont plombés par la grosse... Exactement. Mais il y a plein de gens, et moi j'en connais plein, qui bossent normalement, qui emmerdent personne, qui essaient de vivre normalement.
De gauche,
dans ces quartiers. Et c'est ça, les quartiers. Ben, bien sûr, c'est pas les 240 000 mecs qui font du stup, etc. C'est pas vrai. C'est ça, les quartiers aussi.
Alors, Amine, ça.
Ce n'est pas juste la majorité, c'est l'immense, l'écrasante majorité. Souvenez-vous, lors des émeutes au mois de juin dernier, lorsque on disait les quartiers sont à feu et à sang, etc. Ça a donné lieu à, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact, mais autour de 10 000, on considère qu'il y a 10 000 individus qui étaient concernés. Il y a 10 millions de gens qui vivent dans les quartiers populaires.
Exact.
Le rapport, il est là. C'est-à-dire que, parce qu'il y a 10 000 personnes, lors d'émeutes conséquentes, qui ont foutu le bordel, pour dire les choses très franchement, eh ben, il y a qu'à regarder les médias, il y a qu'à regarder les plateaux télé. Moi, je suis avare de ça. Et on a l'impression que ce sont les 10 millions de gens qui vivent dans ces quartiers qui sont responsables de tout ce bordel. Alors que c'est absolument pas le cas. La question des violences que vous évoquez à l'instant, moi, évidemment, il faut la condamner, il faut lutter contre, il faut que les, faut, d'ailleurs, souvent à l'occasion d'affrontements entre la police.
Vous, hein, c'était dans votre quartier.
Exactement. Et à l'occasion d'affrontements entre la police et les jeunes, souvent, vous avez les défenseurs de la police qui viennent vous expliquer que, mais non, il n'y a pas de violence, etc., etc. Alors ça, c'est des débats qu'on peut avoir, évidemment. En revanche, je ne les entends pas quand, là, Bruno Le Maire va couper 130 millions d'euros dans le budget de la police. Quand les policiers se plaignent de ne pas être suffisamment formés, d'avoir aller dans les commissariats, c'est vétuste, c'est déplorable. Comment dans une puissance comme la France, on a des commissariats dans cet état.
Et pourtant, il y a eu une loi, la Lopmi, qui a été votée.
Exactement. Et par contre, les moyens peinent à arriver. Quand les policiers se plaignent, quand ils manifestent notamment pour obtenir plus de moyens, et ben les pseudo défenseurs de plateau, on les entend pas souvent.
Bibi Nassiri.
Bah là, tout a été dit.
Mais surtout cette tension entre les gamins, les jeunes et le rapport à la police, quoi.
Ça a toujours existé. Moi, ouais. j'ai 60 piges. Quand j'étais gamin, on avait un rapport difficile avec la police. Et les blousons noirs avaient des rapports difficiles avec la police. Ça a toujours existé. La police, les jeunes, ok. Mais c'est pour ça que tout a été dit. Faut donner des moyens à la police. Faut que la police revienne et dans les quartiers. Faut lutter contre les trafics de drogue.
On a démantelé la police de proximité.
Bien sûr, c'était une belle chose. Et même plus que la police de proximité. J'ai fréquenté beaucoup de policiers quand j'étais avec Bruno. Il y avait des flics avec des idées, des fois on s'engueulait, mais qui avaient la conscience que quand on vient dans les quartiers.
Mais au moins il y avait un dialogue.
Non, mais quand on va dans le quartier, on a conscience qu'il y a un problème.
Ouais. Je vais marquer juste une courte pause, vous savez quoi, et on se retrouve, je donne la parole aussi à Paul. Paul, aujourd'hui vous êtes timide, hein. D'habitude, vous êtes plus.
Non, mais déjà, premièrement.
Je vous donne la parole juste après.
Ça marche.
Hein. Attends, il faut que je lance la pause, parce que regardez, il y a le réalisateur qui me dit il faut la lancer, sinon on va se faire, évidemment. Venez aussi commenter l'actualité au 01 53 48 3000. Venez vous la commenter. Je vous attends. Le standard est ouvert.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec également Bibi Nassiri, avec Paul-Antoine, avec Bruno Pomari, enfin Aminsa. Très court, Bibi Nassiri, on n'a pas entendu Paul-Antoine.
Très court, je voulais juste dire que j'étais d'accord sur toutes ces histoires de police, d'armée et tout ça. Mais Bruno a dit les islamistes dans les quartiers qui détournent nos jeunes. Je ne suis pas très copain avec les musulmans radicaux, mais ils existent, ils sont là, c'est pas des terroristes. Et s'ils détournent les gamins pour les emmener à la mosquée, pourquoi pas les amener à la religion, pourquoi
mais radicaux, ça, je n'ai pas d'eau. Même ceux qui prennent qui tuent
c'est pas le sujet,
pardon.
Voilà. C'est pas le sujet. Paul-Antoine, on vous a pas entendu.
Ouais, bah oui, alors déjà, il y a quand même, pour le coup, sérieusement, sans rigoler, des plus spécialistes que moi sur la question. Là, je suis le seul à moins connaître le dossier, donc c'est normal que je parle moins. Moi, là où je suis un peu en désaccord, c'est que, oui, il y a évidemment une tension entre ce qu'on appelle les jeunes de banlieue ou des quartiers et la police. Maintenant, par exemple, on prend le cas de Rennes, je crois que c'était il y a 2 semaines, oui. Où les mecs se sont... Rennes, hein, c'est une ville quand même assez calme. Où les mecs se sont tirés dessus à la Kalachnikov, il n'y avait pas la police. La police n'est pas intervenue, d'ailleurs. Donc c'est pas... Pour moi, oui, il y a la police. Maintenant, vous sortez pas une arme de guerre pour tirer sur la police. Il y a deux flics qui passent, il n'y a pas un jeune qui dit tiens, je vais sortir ma Zastava M70 pour fumer un flic. En fait, le flic, il gêne, enfin le policier, pardon, il va gêner 20 minutes le temps qu'il passe le trafic. Après, il part parce qu'il peut pas rester. Donc le problème, à mon avis, c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que la drogue est différente. Il y a 10 ans, 15 ans, ça dealait du hashish,
hashish, etc. Ce qu'on appelle, moi je suis pas d'accord avec ça, mais ce qu'on appelle des drogues douces. Et maintenant on va sur des drogues dures, c'est-à-dire la cocaïne, etc. La cocaïne, donc il y a beaucoup plus d'argent dans la cocaïne, donc beaucoup plus de violence. Et parce que c'est aussi pas les mêmes clients. Le mec qui achète de la cocaïne, il peut être en manque, donc il peut être violent, il peut être prêt à tout. Donc les dealers sont obligés de s'armer, ils sont obligés de s'armer pour défendre leur point de vue, etc. C'est une guerre. Faut bien comprendre que dans les quartiers, il y a une guerre avec des dealers. Donc quand vous êtes en guerre, vous avez besoin d'armes et d'armes de plus en plus puissantes. Parce que
vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me dire aujourd'hui que ça a changé de visage.
Pour moi, ça a complètement changé de visage.
Ça prend une nouvelle forme.
Oui, ça, voilà.
C'est et, ça.
Ah, complètement.
Alors, ce que disait Bibi Nassiri tout à l'heure, il y a quand il était gamin, évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout le même schéma.
Complètement.
Non, enfin, ça a changé. Il a pas tort.
Ça a changé.
Il a pas tort et il a tort à la fois parce que
ça a changé.
Je pense que le plus gros des bénéfices des dealers dans les quartiers, c'est le shit. Et je suis d'accord avec lui pour dire que c'est pas pour moi de la drogue douce, mais peu importe, c'est pas le sujet.
C'est la plus grosse part de marché.
C'est ça. Et qu'il y a énormément d'argent.
J'ai pas dit le contraire. Mais avant, le mec dealait que du shit. Maintenant, il est obligé de dealer aussi de la coke, etc.
Je suis pas sûr de ça, mais.
Non, mais globalement, il doit protéger son point de vue.
C'est vrai, c'est
de
synthèse. Attendez,
c'est surtout les drogues de synthèse.
Et juste pour finir là-dessus, moi je suis d'accord, oui, il faut donner plus de moyens aux policiers, etc. Maintenant, moi j'ai un gros problème avec ça. Donner plus de moyens aux policiers, il n'y a aucun problème. Maintenant, petit pic quand même, on peut pas faire la guerre en Ukraine et aller donner des moyens à nos policiers. Il y a un moment, la France, c'est pas la banque. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ok, on va donner des moyens à nos policiers. Nos policiers sont de plus en plus armés. Je crois, Bruno Pommard m'arrêtera si je me trompe, je crois que ça fait 5-6 ans que les policiers voulaient des armes de guerre après le Bataclan.
Oui,
maintenant, ils ont un G36 dans la voiture. Moi, sincèrement, je suis contre. Parce que le problème, c'est que vous avez des mecs en face, des trafiquants qui ont des armes de guerre qui viennent d'ex-Yougoslavie, qui tirent 30 balles à la seconde. Vous avez des flics en face, enfin, des policiers, pardon, qui ont des armes de guerre eux aussi. Et vous avez nous, au milieu, on se balade peinard avec nos gamins, et nous, on n'a rien. Alors, je dis pas que je veux qu'on ait des armes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en donnant des armes, que la police ait des armes,
c'est
encore
une fois,
je
dis
attention, mais c'est pas en mettant des armes qu'on va aussi régler le problème. Et juste pour finir, vous parliez des émeutes. Moi, j'ai pas les chiffres, encore une fois, je crois tout à fait ce qui a été dit, hein. C'est pas du tout ce que je dis. On parle de 10 000 personnes, vous parliez de 10 000 personnes.
C'est un chiffre qui est.
Ouais, voilà, je suis d'accord, mais très bien, mais c'est 10 000 mecs, enfin.
C'est 10 000 de trop, je suis d'accord.
Ils doivent être en taule. En fait, le problème, c'est qu'il
n'y a pas de
réponse
pénale.
Mais ouais, mais ça, c'est pas. Non,
y a
mais
il n'y a pas de réponse pénale.
Et on peut mettre la police
en
arrière.
La police, quand elle arrête,
le même mec, tous les jours, après le flic,
il fait. Toi, t'as raison, mais
vous venez de le dire, c'est les 76 000 personnes incarcérées, c'est-à-dire en Europe, je crois qu'on va tous les
reconnaître. Non, mais très bien. Mais il y a un moment, quand un mec, il crame un abribus et qu'il a 17 ans, je suis désolé, il va en taule.
Prends
le
temps.
Mais
il va en taule.
Mais non, il va plus.
Mais non, mais déjà, il n'y a plus de place.
Mais voilà. Et puis surtout, on a une justice qui est ultra laxiste. Depuis,
non, c'est pas une justice laxiste, c'est une justice qui applique la loi. La loi, c'est que si tu prends moins d'un an, tu as un bracelet.
Oui,
Du coup, même vraiment, notre ex-président, il a eu bénéficié de ça, sinon il sera en taule.
Ah non, mais ça, c'est un autre sujet.
Tout le monde bénéficie de ça.
Bah oui, mais ça, c'est pas normal.
Juste un mot, il y a un truc qu'on n'a pas abordé quand même, c'est toute cette violence. Notre société est plus violente, notre pays est plus violent, c'est vrai, mais à un moment donné, est-ce qu'on se pose la question de pourquoi cette violence ?
C'est social.
Exactement. C'est-à-dire que sur les plateaux télé, encore une fois, on va vous expliquer que c'est l'arabe, que c'est le noir, que c'est le musulman, que c'est le maghrébin, etc. La réalité, c'est que il y a rien qui le prouve, que c'est l'immigration en général. Il y a rien qui le prouve. La seule chose, la seule corrélation qui a été faite avec la violence, c'est la précarité. Plus vous êtes dans la précarité, plus vous êtes dans une société précaire, plus vous êtes dans des quartiers précaires, plus vous avez de la violence. Ça ne justifie pas, ça n'excuse pas.
Mais
il faut commencer à essayer de comprendre d'où vient cette violence pour pouvoir y apporter une réponse adaptée.
Alors, tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Par contre, un bémol concernant les problématiques d'immigration clandestine, je précise bien, pas immigration économique, etc., parce qu'on en a besoin, c'est important, je crois que c'est clair là-dessus. Mais encore une fois, l'immigration clandestine qu'on voit actuellement nous pose des problèmes, de réels problèmes de violence. On l'a vu d'ailleurs, tu parlais de Nice hier, il y avait des OQTF et des mineurs isolés qui étaient dans le baston qu'on a vu. Bon, et à chaque fois qu'il y a un rassemblement comme ça, tu fais le test, moi chez les copains. Mais évidemment, je les ai au téléphone parce que, comme je les ai dans les médias souvent, ils me filent des infos. À chaque fois, on tombe sur les mêmes.
Pourquoi vous dites
mais
non?
OQTF.
Pourquoi
c'est
terrible. Pourquoi je
parle pas des gosses des quartiers quand je dis
ça. Ouais, bien sûr, on est d'accord avec
on
ça.
Peut faire la distinction,
je suis d'accord. Tu ne penses pas, mais.
Je ne pense pas que c'est les jeunes des quartiers.
Ah non.
On parle d'immigration, par exemple, on parle des viols. Il y aurait une recrudescence des viols parce que c'est les migrants, pas les immigrés, les migrants qui violent. Mais fourniraient, je peux citer plein de noms de violeurs, je peux citer de serial killers, c'est pas des musulmans. Oui. Ça c'est la première chose. Et si on revient à l'histoire de c'est social. Moi quand j'étais gamin, j'ai 60 piges, je le répète, quand j'étais gamin, les grands des quartiers, comme on dit dans les quartiers, les grands, on appelait les grands des quartiers, c'était pas des arabes ou des noirs, il y avait déjà pas de noirs.
Mais pourquoi
c'est
magasins, laisse-moi finir.
Ne m'interromps pas, tu vas dire ce que tu as à dire, mais laisse-moi finir. Les grands des quartiers, c'était pas des arabes ou des noirs, c'était des fils de polonais, des fils d'italiens, et ils étaient délinquants, c'est social, et c'est bien sûr
la violence des immigrés
qu'il y a de la délinquance, mais c'est logique, en Amérique, c'est des italiens, maintenant les portoricains, et ainsi de suite, c'est comme ça. C'est pas une histoire de race, c'est pas marqué dans le Coran.
Ce que je disais par rapport à ça, en fait, c'est que l'extrême droite essaye d'installer le fait que parce qu'on vient, ou parce qu'on est d'origine, ou parce qu'on ressemble à tel ou tel type de telle et telle ethnie, eh ben, on est foncièrement violent. C'est pas vrai, la violence, elle ne tire pas sa légitimité des origines ou des couleurs de peau.
Bon, un message pour vous, justement. Justement, s'il y a une régularisation, ces personnes ne seront-ils pas assimilées pour entrer dans la société?
Question.
La régularisation, ces personnes ne seront-ils pas justement assimilées?
C'est en référence aux OQTF dont tu parlais.
OQTF.
On assimile plus, ça c'est une certitude. Mais encore une fois, il faut le faire de façon efficace pour notre pays, tout simplement. Et moi, je protège nos compatriotes. Parce que ceux qui souffrent le plus, c'est pas moi. Hein. Moi, j'habite dans les beaux quartiers, j'ai pas de problème.
Évidemment.
Je suis maire de mon petit village, mais vraiment pas de problème. Je pense à mes compagnons, aux gens que je connais dans les quartiers, j'en connais beaucoup. J'en connais même plus dans les beaux quartiers. Et eux souffrent beaucoup plus de toutes ces problématiques.
On est d'accord.
Lorsqu'on parle de cette immigration clandestine, qui est un vrai fléau, clandestine, je précise bien, hein. C'est un vrai fléau. Si on accueille dans de bonnes conditions, quand tu vas sur les bords de Marne ou sur les bords de la Seine avec des mecs sous des teintes en train de dormir comme des clochards, c'est ça accueillir?
Je vous laisse Est-ce que vous voulez qu'on parle du déficit public, les républicains qui devraient se taire, ça c'est non. Bruno Le Maire qui se fâche, ou est-ce que vous voulez qu'on parle du Sénégal ou de la guerre en Israël? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous laisse le choix.
Sénégal,
une courte.
Sénégal, c'est beaucoup plus intéressant.
Il y a une vague de.
C'est très intéressant ce qui est en train de se faire là.
Exactement.
Et Paul maîtrise le sujet. J'aime pas dire. Ouais.
Le maire, on peut en parler aussi.
On va en parler, messieurs, il n'y a pas de problème. À tout de suite, on marque une pause.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec notamment Bibi Nassiri, Paul-Antoine, Bruno Pomard et enfin Amine Sa. Nous allons parler, vous savez quoi, de ce fameux déficit qui est de 5,5%. Eh bien, sachez-le, après cette annonce, eh bien, beaucoup s'interrogent et se posent la question, mais que fait le maire, Bruno Le Maire, hein, le ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il fait à Bercy finalement, à quoi sert-il? Même d'ailleurs, ça va très très loin. Et beaucoup, beaucoup de personnalités, donc chez les Républicains, eh bien, vous savez quoi, ils appellent à sa démission. Pour quelle raison, Amine Sa?
Que les Républicains appellent à la démission d'un ministre, c'est pas nouveau, ils font ça très régulièrement, c'est presque la procédure interne.
Mais les Républicains qui appellent à la démission de Bruno Le Maire, c'est rare.
Qui est un ancien républicain.
Enfin, ils l'ont quand même mauvaise, hein, du fait de la trahison aussi. Ouais. Hein, et puis ils enchaînent les trahisons là avec Rachida Dati, etc. Bon, la réalité, c'est qu'est-ce que fait Bruno Le Maire à Bercy? Il écrit des bouquins. Voilà la réalité. Il fait rien d'autre qu'écrire des bouquins.
Alors,
je suis pas d'accord forcément avec Nicolas Dupont-Aignan qui, hier matin, dans la matinale de Sonia Mabrouk, qui expliquait mais comment cet homme fait pour écrire 8 bouquins tout en étant ministre de l'économie compte tenu de la situation. Oui. Il faut se dire, alors soit c'est pas lui qui les écrit. Soit c'est pas lui qui les écrit, franchement, autant ne pas les écrire. Soit il les écrit, dans ce cas-là, il n'assume pas son rôle de ministre.
Juste un dernier mot
sur le déficit. Enfin, quand même, ils se sont auto-fixés l'objectif de 3%, et de cette rigueur des 3%. Ils sont au double aujourd'hui. À un moment donné, il va falloir qu'ils s'interrogent. Et je pense que, au-delà de la démission qui est demandée par les Républicains, je crois que le président de la République commence à réfléchir à changer de ministre de l'économie.
Bruno Pomard, et ensuite après, il faut qu'on parle du Sénégal.
Je crois qu'on est toujours on court après la dette, comme toujours, c'est clair, mais je crois qu'encore une fois, nos gouvernants ne regardent pas, c'est-à-dire on répond à toutes les problématiques de notre société qui sont lourdes depuis les gilets jaunes. Donc on a ouvert les vannes et puis on arrose à chaque fois. Il y a un problème, pouf, on va filer 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Certes, ça peut aider sûrement nos compatriotes qui en ont le plus besoin, mais encore une fois, je pense qu'on ne sait pas faire de l'économie. Et c'est un peu comme l'Europe d'ailleurs, hein. On a beaucoup, beaucoup de fonctionnaires, et je l'ai été 36 ans, donc je suis bien placé pour le savoir. On a encore cette année, je crois, il y a eu plus de 50 000 fonctionnaires embauchés, collectivités locales, etc. Où va-t-on? On a fait ces grandes régions, qui sont des doublons la plupart du temps. On est toujours en train de créer des structures au-dessus d'autres structures. Tout ça, ça coûte du pognon parce qu'il faut du personnel. Encore une fois, il faut se poser la question. Mais comme ce sont toujours les mêmes technos qui nous gouvernent, ils sortent des mêmes écoles, ils apprennent les mêmes choses. Donc ils créent les mêmes choses.
C'est un peu le. C'est serpent qui se mord.
Exactement. Et il ne faut pas s'étonner qu'on est 5-5 de.
Très rapidement, pour les Républicains, je pense que c'est un problème politique. Ils ont, à mon avis, très, très mal digéré. Faut le reconnaître, le très beau coup du RN. Qui a quand même récupéré deux personnes intéressantes sur leur liste. Ils ont péniblement récupéré le général Gomard, donc ils sont assez loin. Donc je pense que politiquement, ils essayent d'exister parce que leur liste, ça va aller à mon avis nulle part. Donc ça, c'est de la politique politicienne. Ensuite, sur le déficit, en fait, il faudrait que la France se mette sérieusement à créer de l'argent. C'est-à-dire que le gouvernement, la seule chose qu'il sait faire pour créer de l'argent, c'est créer un impôt. Mais créer un impôt, c'est pas créer de l'argent. C'est-à-dire que vous prenez de l'argent qui aurait dû être dépensé et vous le mettez dans les caisses de l'État. C'est pour payer des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, etc. C'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment les fonctionnaires.
Faut produire la richesse derrière.
Voilà, les fonctionnaires dont on a besoin, on est tous d'accord pour dire qu'il faut plus de policiers, mais bizarrement, il n'y en a pas. Non, c'est peut-être d'autres fonctionnaires, mais eux on n'a pas le droit. Voilà. Donc, il faut aider les entreprises. Moi, je le rappelle, je suis chef d'entreprise, on n'est pas aidé. La Startup Nation, c'est un rêve. Ça n'existe pas en réalité. Il faut aider nos petites entreprises. La France, c'est 95% de petites entreprises.
Il a raison, c'est ce qui fait.
Et j'ai rien contre eux, mais c'est pas Total, c'est pas Airbus, etc. Encore une fois, on a besoin de ces entreprises-là aussi. Mais c'est ça. Et il faut aider ces petites entreprises à créer de l'emploi. C'est mathématique, vous créez de l'emploi, donc vous donnez un salaire, donc les gens ils peuvent du coup dépenser, etc.
Olivia Grégoire se bouge quand même sur le truc, hein. Moi je fais pas du partisan pour partisan, mais je trouve qu'elle se bouge sur les
non, mais le coût du travail est beaucoup trop important.
Oui,
Par exemple, tant qu'on reviendra pas sur ce tabou du coût du travail, vous embauchez quelqu'un à 1 500 €, globalement ça vous coûte 2 700 €. C'est une aberration. C'est une aberration. Donc que font les gens? Ils travaillent à l'étranger, ils se traitent en Europe, etc. C'est logique.
Et puis l'État ne crée pas de richesse, hein, il faut le rappeler.
Ah bah, ouais, juste Bruno Le Maire qui avait dit qu'il mettrait la Russie à genoux et la Russie se porte super bien. C'est des gens, ils viennent là pour le job, ils viennent là certainement, je ne veux pas dire des choses à faire des accusations, mais ils viennent là pour le job et pour le salaire, et ils viennent pas là pour... c'est pas des patriotes, voilà. Il faut mettre des patriotes au pouvoir. Et c'est pour ça que les gens qui disent qu'ils vont pas voter, ils sont complices de ce qui se passe dans notre pays. Et ceux qui ont subi Macron, ou ceux qui ne l'ont pas subi, mais ceux qui prétendent avoir subi Macron et qui ne vont pas voter, ils sont complices de ce qui se passe en France. Il faut aller voter.
Tout à fait.
Là, on a jusqu'au 5 mai, il faut aller voter. Si vous n'avez pas voté, fermez-la.
Oui, c'est vrai, il faut aller. Moi, je le dis tout le temps en permanence ici, effectivement, il faut aller s'inscrire pour pouvoir évidemment s'armer de ce fameux bulletin. Je voudrais qu'on parle du Sénégal, messieurs, parce que ce qui se passe là, c'est très très important. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'angle. Alors, à la fois, on va parler de cette jeunesse sénégalaise, mais surtout, que va-t-il se passer avec ce tout nouveau partenariat avec la France? Vous savez, Emmanuel Macron, il courtise déjà le tout nouveau jeune président. Qui veut prendre la parole? Tiens, Paul-Antoine, vous liez.
Mais c'est pour moi c'est vraiment historique.
C'est historique.
Je pense que c'est le début de la fin de la fin de la France-Afrique.
Ouais,
ce qui est excellent, c'est la colonisation, c'est fini. La France-Afrique, c'est fini. C'est pas encore complètement fini. Ouais, il reste à la France le Sénégal. Ouais, enfin il reste le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Après c'est fini, hein, globalement. Donc pour moi c'est très bien. J'aimerais quand même que la France quitte le Sénégal fini, hein. Dans de bons termes. Ah oh, pas encore. Il nous reste 350 soldats. Il nous reste une base aérienne. Il y a une escadre navale. Il y a encore un peu de monde.
Et une langue.
Ouais, donc moi je trouve ça très bien qu'on quitte le Sénégal de ce point de vue-là. J'aimerais par contre que ça se fasse très bien, pas comme au Mali, où on est parti dans de très mauvais, en très mauvais termes. Donc,
la situation n'était pas la même au niveau.
Oui, la situation n'était pas la même, mais ce serait quand même bien qu'on quitte le Sénégal d'une bonne manière. Moi, le choix du peuple sénégalais, déjà c'est le choix du peuple sénégalais, donc ça, il doit être respecté. Je trouve ça très bien. Ça prouve aussi que la France n'a rien fait, parce qu'on nous dit aussi souvent, oui, la France est responsable de tout en Afrique, il ne faut pas non plus déconner. Non. Il était en prison il y a 2 semaines. Je pense qu'au Sénégal, la France contrôle encore pas mal de choses et contrôlait beaucoup de choses. Si on n'avait pas voulu qu'il soit président, je pense qu'il lui aurait arrivé un Navalny en prison. Donc, juste pour finir, et ça, pour moi, ça prouve qu'il y a quand même une démocratie au Sénégal, ça prouve que la France se retire complètement, qu'on le veuille ou non, c'est très bien.
Et en même temps, on a aussi besoin de ça, parce qu'on est quand même le premier investisseur là-bas. Il y a quasiment 250 ou 300 entreprises implantées au Sénégal, c'est pas rien. Hein.
Oui,
on apporte de l'économie aussi.
Non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est pas la France. Ça, c'est des entreprises françaises. Pardon, je coupe la parole.
Ce que
je
veux dire, c'est que.
Oui, mais il faut que la France, d'un point de vue politique, militaire, etc., quitte le Sénégal. Après qu'on ait qu'un chef d'entreprise aille au Sénégal, ça, c'est très bien.
Vous dites la même chose.
Qu'on garde la langue. Oui, bien sûr.
Parce que
qu'on
garde la langue, c'est dans les bonnes conditions. Si on quitte le Sénégal dans les bonnes conditions,
le seul problème, les amis, c'est que comment ça va se faire, comme ça se fait au Mali et ailleurs, il y en a d'autres qui vont prendre la place. Ça veut dire les Russes, les Chinois, avec les mercenaires.
On l'a fait. C'est le travail de la France.
De Bob Denard, on l'a fait.
Du président.
Et là, maintenant, eux vont venir. Et ils n'ont pas de. Tu parlais de la France-Afrique, tu as raison. Mais c'est une forme de colonisation.
Je suis complètement d'accord.
Ils vont arriver, vous nous filez une mine, on va vous construire un stade. C'est exactement ce qui se passe.
Ça veut dire
que les exploités sénégalais sont des idiots.
Une main devant, une main derrière.
Ça veut dire que les Sénégalais sont des idiots. On va leur dire, on va leur construire un stade et
ils vont se faire acheter.
Le
président se dit souverainiste et ça c'est très bien. J'espère juste qu'il va quitter, donc que la France va quitter, notamment avec le France CFA. Par contre, j'espère juste qu'il est vraiment souverainiste et que c'est pas la France quitte pour que la Chine et la Russie ou les États-Unis viennent, évidemment.
Aminsa et ensuite Bibi Nasseri.
Oui, tout à l'heure,
il y a le code neuf dans deux minutes.
L'envoyé spécial tout à l'heure disait, faisait référence à Mandela dans la manière dont le nouveau président est arrivé au pouvoir. J'irai